Le message de ce soir pourrait porter pour titre le suivant: Dieu cherche des porteurs de son évangile. Et je propose que nous redécouvrions ensemble l'évangile que nous prêchons. Je ne suis pas sûr que nous le connaissions vraiment, comme il importe de le connaître. Et pour introduire cette deuxième réunion, lisons quelques textes en 2 Corinthiens 4. Nous lisons à partir du verset 3. Si notre évangile est voilé, dit l'apôtre, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. L'évangile est splendide. Il est glorieux. Il est magnifique. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, Jésus-Christ le Seigneur. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. C'est un premier texte auquel nous en ajouterons un autre en 1 Corinthiens 15, les deux premiers versets. Les Corinthiens avaient besoin que l'Évangile leur fût rappelé. Et je crois que nous avons nous aussi besoin que l'Évangile nous soit rappelé. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Vous avez certainement comme moi, et vous le savez depuis longtemps peut-être, que l'évangile, le terme évangile en français, vient d'un mot grec qui signifie « bonne nouvelle » du mot grec « euagelion », lequel est un très vieux mot grec qui était déjà employé avant même l'apparition du christianisme dans la Grèce ancienne. Et il avait au moins deux significations avant de devenir un terme chrétien. Le mot « évangile » signifiait, le terme euagelion, signifiait pour commencer la récompense qui était accordée aux messagers de bonnes nouvelles. Puis ensuite, ce même terme, évangile dans la Grèce ancienne, avait directement affaire au sacrifice que l'on faisait à l'occasion de bonnes nouvelles reçues. Les bonnes nouvelles étaient généralement, dans la Grèce ancienne, salués par des sacrifices. Et c'est ensuite que le terme évangile a signifié tout simplement « bonne nouvelle ». Et le terme évangile, nous le découvrons déjà dans la version grecque de l'Ancien Testament, qui est appelée la version des Septante. Nous trouvons par exemple ce terme en 1 Samuel 31:9. Et il est là employé à propos d'une bonne nouvelle de victoire. Le terme « euagelion » dans la version grecque de l'Ancien Testament était employé à propos de bonne nouvelle de victoire. Il a été ensuite employé, toujours au niveau des Septante, pour parler de la venue de Dieu lui-même sur la terre. C'est ainsi que ce terme a évolué. Il a par exemple été employé de la manière suivante en Ésaïe 40, verset 9. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. » Et déjà dans l'Ancienne Alliance, le terme évangile est touché de près à l'avenue de Dieu lui-même sur la terre. Annoncer l'évangile dans l'Ancien Testament, c'était annoncer l'avenue de Dieu lui-même sur la terre. Et puis en Ésaïe 52, verset 7, publier le salut dans l'Ancien Testament, toujours au niveau des Septante, version grecque de l'Ancien Testament, annoncer l'évangile, c'était annoncer le salut. En ces termes, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Et savez-vous que ce mot « évangile » n'a pas une longue histoire en dehors du Nouveau Testament? Le terme lui-même « évangélisé » est un terme qui était assez rarement employé et qui était réservé aux esclaves, C'était les esclaves dans la Grèce antique qui étaient porteurs de bonnes nouvelles, qui évangélisaient, rapportant par exemple la victoire de généraux, ou que sais-je encore. Alors c'était un terme qui touchait directement aux esclaves. Et je dirais que ça n'a pas changé depuis. Ce sont des esclaves du Christ, des serviteurs du Christ, qui doivent évangéliser, qui doivent être porteurs du plus beau des messages. L'évangile est le plus beau des messages. Combien êtes-vous ici à en être persuadés? Haut la main! Pas haut les mains, hein, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Oui, j'en vois, je vois un certain nombre de mains qui se sont levées, mais d'autres ont peut-être hésité de le faire. C'est le plus beau message qu'une oreille d'homme puisse entendre aujourd'hui. Il y a tant de messages qui parcourent la France. Toutes sortes de messages, des messages politiques, des messages scientifiques, toutes sortes de messages, des messages philosophiques. Ils sillonnent notre France en même temps qu'ils sillonnent le monde. Mais il n'y a pas de plus beau message que celui-là. Et tant que nous n'en sommes pas persuadés, nous ne sommes pas convaincus de le porter à d'autres. Mais pour ce faire, il nous faut nous faire esclaves de Dieu pour porter ce même évangile, serviteur de Dieu. Et à propos du Christ, lequel nous le porta, pour commencer, la Bible dit qu'il s'est fait esclave. Serviteur, et c'est le terme doulos qui est employé à son sujet, en Philippiens 2.7 par exemple, véritable esclave. Il s'est fait donc esclave, serviteur, pour nous porter l'évangile. C'est en fait en image de l'homme, lui le Dieu de toute éternité. Mais c'est dans le Nouveau Testament que ce terme devient extraordinaire, qu'il acquiert tout son sens, sa dimension, sa portée, toute sa signification. Le terme évangile revient 72 fois dans le Nouveau Testament, tandis qu'il revient 54 fois dans les seules lettres de l'apôtre Paul. Ce terme évangile, euagelion en grec, contient en lui-même tout le message chrétien. Celui de la rédemption, celui de la justification, celui de la sanctification. Et la prédication de l'évangile, c'est aussi la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En Matthieu 4, 23, nous lisons « Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » L'évangile, c'est donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle du salut. Et cet évangile est, pour commencer, vous allez dire « ça coule de source », mais ça n'est pas aussi évident qu'on le pense souvent. Pour commencer, l'évangile est l'évangile de Dieu. Il est important de le dire, de l'annoncer. Parce qu'il a sa source en Dieu. Aucun homme, aucune église, aucune dénomination, aucune religion ne peut prétendre au monopole de l'évangile. Il est l'évangile de Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Et savez-vous que l'évangile était dans le cœur de Dieu avant même la création des mondes et des univers? L'évangile a ses racines dans l'éternité. Il est l'évangile de Dieu. Et il est remarquable de lire le texte suivant, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 14, Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Il prêchait l'évangile de son Père, cet évangile que son Père lui avait confié. Il est donc l'évangile de Dieu parce qu'il a sa source en Dieu. L'évangile n'est pas une création de l'homme. Il n'est pas même l'aboutissement d'une recherche patiente et persévérante de l'homme. L'évangile, c'est la révélation de Dieu par Jésus-Christ. L'évangile a donc sa source en Dieu. Et cet après-midi, il m'est tellement agréable de vous dire que l'évangile que nous prêchons, que l'Église a vocation de prêcher, cet évangile-là est cher au cœur de Dieu. L'évangile est cher à Dieu. Est-ce qu'il nous est cher cet après-midi? Est-ce que nous le chérissons parce qu'il est l'évangile de Dieu, parce qu'il vient de Dieu? Parce qu'il est l'évangile du salut qui vient d'en haut. L'évangile est donc cher au cœur du Père. Est-ce qu'il nous est cher de la même façon? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous le serrons sur notre cœur? Est-ce que nous en sommes les porteurs? Il est l'évangile de Dieu aussi parce qu'il révèle au monde le visage de Dieu, cette face de Dieu de tout temps cachée, qui a été mise à jour par Christ, lequel a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est l'évangile du Père. Il est aussi l'évangile de Dieu parce que il n'a rien d'humain. Il va même contre la sagesse de l'homme. Il est une folie à l'esprit de l'homme. Il fait partie de cette sagesse de Dieu, et c'est pourtant un homme qui nous le porta. La Bible dit à propos de cet évangile qu'il est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Il faut que ce soit clair, l'évangile appartient à Dieu. Pour commencer, c'est l'évangile de Dieu que nous prêchons. C'est le seul qui sauve. Ensuite, il nous est fait savoir dans le Nouveau Testament que c'est l'évangile de Jésus-Christ, au moins pour deux raisons. D'abord parce que c'est lui qui nous le porta de la part de son Père. En ces termes, par exemple, en Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » L'évangile de Jésus-Christ, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, dit Marc, au tout début de son évangile. En 2 Corinthiens 4, 4, 9, 13, 10, 14 et 15, il est encore question de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous le porta. Le plus grand des prophètes n'aurait pas pu nous porter ce magnifique évangile. Pourquoi ? Parce que cet évangile, qui est l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ, avait besoin d'un homme pour l'incarner parmi les hommes. Le plus grand des prophètes n'aurait pas pu nous porter cet évangile trop extraordinaire venant de Dieu lui-même et du Christ lui-même. Et nous savons que le Christ a incarné l'évangile. Oui, cet évangile de chair et d'eau. Le Christ a incarné l'évangile, puisque la parole a habité parmi nous, dit Jean dans les premiers versets de son évangile. Et le terme employé en grec ici est très intéressant. Il dit « la parole a tabernaclé parmi nous », en souvenir du tabernacle parmi les Israélites au désert, sous la conduite de Moïse, et de même que Dieu campait parmi les siens au désert, par Jésus-Christ il a campé, tabernaclé parmi nous. La parole a tabernaclé parmi nous. Le Christ donc, non seulement a prêché l'évangile, quelle joie de savoir que le Christ a prêché l'évangile, mais il l'a incarné. Il l'a vécu jusqu'au bout, de manière extraordinaire, de telle manière qu'en contemplant sa face, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux que nous contemplons. Mais après avoir été l'évangile de Dieu, pour commencer, puis l'évangile de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a osé une parole qui pourrait nous faire trembler. En effet, l'apôtre Paul a appelé ce même évangile de Dieu, de Jésus-Christ, il l'a appelé « mon évangile ». Il le dit par exemple en 2 Corinthiens 4, 3, en 1 Thessaloniciens 1, 5, pour ceux qui prennent des notes, en 2 Thessaloniciens 2, 14, en Romains 2, 16. Pourquoi l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ est devenu son évangile ? Parce que l'apôtre se l'était approprié par la foi. Et écoutez bien encore ce qui suit. Ce même évangile était passé dans sa vie, dans tout son être. Ce même évangile l'avait atteint jusqu'au niveau de ses fibres les plus fondamentales, les plus profondes. Cet évangile coulait dans ses veines. Cet évangile était en lui. Cet évangile avait purifié son cœur, avait régénéré son intelligence. Cet évangile occupait ses pensées, son cœur, son esprit. Il ne vivait que pour l'évangile. Il était porteur de l'évangile. Voilà pourquoi cet homme a osé dire « Cet évangile est aussi le mien ». Je vous pose la question. Est-ce que vous avez un évangile à prêcher ? Nous avons envie de le laisser à des spécialistes. Que de chrétiens laissent l'évangile aux spécialistes de l'évangélisation, et c'est le drame souvent de nos églises, et c'est aussi tout le tragique souvent de l'affaire. Le porteur de l'évangile, c'est vous, mon ami. Vous que Dieu n'a pas appelé à plein temps, comme on dit, mais qui l'êtes, effectivement. Et qui devait porter cet évangile comme un flambeau, pour qu'il soit vu, entendu, par votre témoignage. Dieu cherche des porteurs de l'évangile. Il y en a si peu. Tout à l'heure, quelqu'un d'OM a parlé de cet été. Il a parlé de l'évangélisation de la France, de tous les villages de France. Et j'ai bien apprécié ce qu'il a dit, parce que je suis à Opération Mobilisation en tant que vice-directeur, et j'ai beaucoup à cœur ce travail en France, au niveau de tout l'Hexagone comme au niveau des départements d'outre-mer qui font partie de la France. Dieu cherche des porteurs de l'Évangile. Ils sont si peu. Moi, je crois que ce qui fait aujourd'hui le souffle et le réveil au Québec, lors de ma dernière campagne, d'il y a quelques jours à peine, 280 personnes se sont avancées pour recevoir Jésus-Christ. Ceci, je ne le vois pas en France. Je ne le vois pas en Suisse. Je donne pourtant les mêmes messages de toutes mes forces, de toute la conviction dont Dieu m'anime. Mais ce que je constate, par exemple, au Québec, où les églises se multiplient de façon extraordinaire, le Québec se couvre d'églises évangéliques. Les baptistes créent une nouvelle église par mois. Les assemblées de frères explosent. Une assemblée de frères que je visitais en 1972 pour la première fois et qui réunissait 10 personnes vient tout récemment de se scinder en 7 églises contenant chacune 100 personnes en 10 ans. En la Martinique, au mois de février, en 6 soirs d'évangélisation, 118 personnes sont venues devant. Mais si vous saviez le travail au niveau du 1 à 1, les porteurs de l'évangile. Alors qu'à la Martinique, j'étais assis, attendant d'être invité pour la prédication, les chrétiens défilaient là, devant moi, pour me dire, à l'oreille, Alain Choiquier priait, aujourd'hui j'ai pu inviter ma belle-mère. Alain Choiquier priait, et on vous soutient par la prière, parce qu'aujourd'hui j'ai pu inviter deux de mes voisins. Alain Choiquier, nous prions parce que deux de mes collègues de travail. Mais on ne s'étonne plus. Et il en est ainsi au Québec. Quelque chose d'extraordinaire. Quand je quitte le Québec ou les Antilles ou la Guyane pour la France, je puis vous dire que je rentre un peu avec le cœur qui fait boum boum en me demandant ce que je vais trouver en France. L'évangile, notre évangile, le vôtre, mon ami. Et Dieu voudrait faire de vous un porteur de l'évangile où que vous soyez. Où que vous viviez, qui que vous soyez, à partir du moment où cet évangile vous a sauvé, à partir du moment où vous l'avez reçu dans la repentance, dans la foi, à partir du moment où il a fait de vous une nouvelle créature, Dieu veut faire de vous un porteur de l'évangile pour que vous puissiez vous aussi dire, comme vous pouvez dire par exemple « mon sauveur », vous puissiez dire « c'est l'évangile que je prêche, il est mon évangile parce qu'il m'a sauvé ». Et vous le passez aux autres, cet évangile. Vous ne le gardez pas pour vous. C'est ainsi que nous avons procédé à Nation très faiblement, il y a quelques années. Je priais pour que toute conversion corresponde à un nouveau témoin de l'évangile. Pas de chômage dans l'église. On est tous au travail. Eh bien, j'ai la joie de vous dire encore que c'est très faiblement que nous avons tenté de réaliser ce que l'évangile enseigne, ce que les apôtres enseignent, c'est qu'après 16 ans, Nation, mon église à Paris, mon assemblée a 16 ans d'existence, de mon temps, je n'ai lancé que 3 églises, 3 assemblées. Nation, Alfortville-Créteil et Paris 15e. Mais après moi, l'assemblée de la Nation a lancé 4 autres églises. Et après 16 ans, nous en sommes à la 7e. Toujours par ce principe, dès que nous conduisons quelqu'un au Seigneur, nous voulons en faire un porteur de la bonne nouvelle. Un témoin. Mais comment faire de ceux qui se convertissent des porteurs de la bonne nouvelle quand nous ne le sommes pas nous-mêmes? Quand nous confions la bonne nouvelle aux spécialistes de l'évangélisation, dont je suis? Mais j'aimerais vous dire que l'évangélisation appartient à tous. Et je fais la différence entre une église qui évangélise toute l'année, entrée dans ce qu'il est convenu d'appeler l'évangélisation permanente, et puis les églises qui ont, pour se sécuriser, une campagne par année, par exemple. Mais pour se sécuriser, pour un peu se calmer au niveau de leur conscience. Mais ça ne joue pas. Nous avons vocation d'évangéliser tous. Tous, absolument tous. Quelle joie. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. Alors il y a là comme le passage d'un relais entre Dieu, son Fils ensuite, le Christ, l'apôtre Paul, lequel a fait ensuite, de par son témoignage et sa prédication, d'autres porteurs de l'évangile. Il nous faut nous aussi transmettre l'évangile à d'autres, afin qu'ils deviennent à leur tour porteurs du même flambeau de par le monde. Alors une première question avant d'aller plus loin, est-ce que nous sommes tous et chacun ici des porteurs du plus beau des messages? Mais je n'ai pas reçu un don pour la prédication, Alain Choiquier. Alors je ne puis être un prédicateur, je n'ai pas dit des prédicateurs de l'évangile, encore qu'ils soient rares, hein. En France, c'est pourquoi nous sommes si chargés, et j'aimerais, par le fait, apporter une petite rectification à ce qu'a dit notre ami, notre cher ami, M. Lozé, pour ce qui me concerne, en tout cas avec D'autres, avec Maurice Decker, certainement, et puis André Adoul, n'écrivaient pas avant 85. N'écrivaient plus avant 85. Nous sommes très chargés. Nous demandons à Dieu de susciter des prédicateurs de l'Évangile. Des hommes qui aient une certaine trempe, une certaine carrure spirituelle, et qui prêchent l'Évangile fidèlement. Nous prions dans ce sens. Et c'est un peu pourquoi nous avons été ensemble à France Évangélisation, aussi dans ce but. Mais il y a d'autres évangélistes qui commencent un ministère, comme René Vert, Jacques Mouillon, que je vous recommande de tout cœur. À notre place d'ailleurs, puisque nous sommes déjà pleins jusqu'en 85, vous pourriez vous intéresser à eux pour les faire venir en vue de campagnes éventuelles. Nous sommes très chargés. Moi, je ne peux plus continuer au rythme auquel je vais, 4 campagnes par mois. C'est vraiment insoutenable très souvent. Mais en face de besoins tellement urgents, je fais presque 100 000 kilomètres dans le monde chaque année pour porter l'Évangile. Et je ne suis pas le seul en tout pays d'expression française. Que Dieu suscite, prions pour cela, que Dieu suscite d'authentiques prédicateurs de l'Évangile qui adressent un message solide aux âmes habitant en France et ailleurs pour les conduire à la repentance et à la foi au Christ pour leur salut. Mais il n'empêche que si souvent nous trouvions nos églises prêtes, entrer dans un mouvement d'évangélisation permanent, la tâche serait tellement plus facile, tellement plus aisée. On invite souvent les spécialistes de l'évangélisation comme des hommes miracles, qui vont faire des miracles, et comme ils ne font pas de miracles, alors on est parfois déçu. Déçu, on se demande s'il faut continuer d'organiser des campagnes d'évangélisation. La véritable évangélisation est au niveau du chrétien lui-même, au niveau de son témoignage, dans les sphères côtoyées, chaque jour, la sphère familiale, professionnelle, la sphère des loisirs. Voilà où se situe à la base la véritable évangélisation. Nous avons eu à Nation pour devise la suivante, l'église dans la rue. Elle a de la peine à aller dans la rue, l'église, hein. Alors la rue vient dans l'église. Et c'est ce que nous avons expérimenté à Nation, la rue qui est venue voir dans l'église si ce qu'on lui a dit au dehors était vrai au dedans. Attention, il faut que ce soit vrai au dedans, d'où le message de ce matin. Notre évangile, qui est la puissance de Dieu. Vous savez, très souvent, nous incriminons le siècle pour expliquer les difficultés que nous avons au niveau du témoignage personnel et de l'évangélisation en général. Oh, j'admets que le siècle est duré, je le vois de plus en plus. Et j'ai même, il y a peu de temps, à l'occasion du congrès de nos amis de l'AEEI à Paris, j'ai donné pour titre le suivant, ça va peut-être vous surprendre, « La France du béton ». C'est vrai que c'est du béton, hein. Qui dit que ça n'est pas du béton ici ? « La France du béton », mais l'évangile de la dynamite, pour faire sauter le béton. Et le béton doit sauter. Le béton fait des courants idéologiques matérialistes pour la plupart du temps qui piétinent le sol de la France et qui le ferment à la graine de l'Évangile. Je viens de terminer le congrès de France Mission, après celui de l'AEI, j'ai tenu celui de France Mission jusqu'à dimanche dernier, avec pour thème « Défrichez-vous un champ nouveau » et j'ai parlé de ces 4 terrains. Au niveau de la parabole du semeur, la première sorte de terre, le chemin, la seconde sorte de terre, la terre caillouteuse, la troisième sorte de terre, la terre épineuse et enfin la bonne terre. Et à propos de la première terre, je disais que des courants philosophiques, idéologiques, politiques piétinent notre terre de France pour la fermer non seulement à la graine de l'Évangile, mais aussi à la pluie du ciel, du Saint-Esprit. Et quand une terre est piétinée, fermée, l'eau même souvent a de la peine à y entrer. Et il semble que ce soit le cas, en tout cas pour notre France. Mais l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette terre fermée peut être ouverte par les coups de boutoir de l'Évangile. Je le crois de tout mon cœur, voilà pourquoi je continue d'évangéliser la France. Si je ne le croyais pas, il y a longtemps que j'aurais démissionné pour ces pays d'expression française qui vont du Nouveau-Brunswick, que je visite couramment, jusqu'en Guyane en passant par le Québec, 6 millions d'habitants, Haïti, 6 millions d'habitants, la Martinique et la Guadeloupe qui représentent environ 600 000 habitants plus la Guyane. Ce sont des pays ouverts, mais très actifs, où chacun se veut porteur du plus beau des messages. Il n'y a pas de complexe à faire à propos de l'Évangile. C'est le plus beau des messages. On ne comprend pas souvent que l'Église de Jésus-Christ en France fasse des complexes à propos de l'Évangile. C'est la meilleure des nouvelles que le français puisse entendre. Est-ce que nous en sommes convaincus? Maintenant, peut-être que davantage de mains vont se lever. Qui sont ceux qui croient que le message de l'Évangile est le plus beau des messages qu'une oreille de français puisse entendre? Il y a encore des mains qui ne se lèvent pas. Elles vont se lever à la fin, vous allez voir. Oui, ça va venir. Et puis, l'Évangile ne se reçoit que par révélation. Il faut une révélation pour qu'il soit reçu. Jésus l'a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux, une révélation d'en haut. L'apôtre dit encore aux Galates, c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère de Christ, qu'il a reçu l'Évangile. Mais il y a des facteurs qui déclenchent la révélation. Chez l'homme, des dispositions intérieures que Dieu agrée, les seules qu'il agrée, la repentance et la foi. C'est ainsi que Jésus a prêché l'Évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont donc ces dispositions-là qui déclenchent le phénomène de la révélation. Révéler en français signifiant simplement ôter le voile. Il faut donc que le voile du plus grand nombre des Français soit ôté. Mais pour qu'il le soit, il faut absolument qu'ils entendent l'Évangile. Et la meilleure façon pour qu'ils entendent l'Évangile, c'est de le porter chacun là où nous vivons, là où nous sommes. Et l'Évangile doit être cru pour être efficace. Il ne doit pas être, je dirais, compris dans le sens courant du terme, encore qu'en latin, le mot « comprendre » est un autre sens que celui qu'il a en français. Le terme latin « comprendre » signifie « recevoir dans le but d'assimiler, d'incorporer ». Voilà ce que signifie « comprendre ». Et pas simplement par une démarche intellectuelle. La Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. La Bible dit que l'Évangile est une folie. Il est une folie pour l'homme qui veut chercher Dieu uniquement par la tête, par la démarche intellectuelle. L'Évangile, pour commencer, veut toucher le cœur de l'homme. Ils eurent le cœur vivement touché. Acte 2, 37. Ils eurent le cœur vivement touché. L'Évangile veut d'abord toucher le cœur. Et pour qu'il atteigne le cœur des hommes et des femmes de notre génération, il nous faut le dire, le porter, le prêcher avec le cœur. Il faut un cœur à cœur avec les hommes de notre génération. Et c'est une fois le cœur touché, changé, transformé par la puissance de l'Évangile, que l'Évangile monte de 20 centimètres et plus pour atteindre l'intelligence qu'il doit régénérer. Jésus avouant même ce qui suit, en Luc 10, 21, dans une prière à son Père, « Je te loue de ce que tu aies caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce siècle, et de ce que tu les aies révélées aux enfants. » Alors l'Évangile cherche à atteindre le cœur. Il nous faut le prêcher avec cœur, de tout notre cœur. Il faut qu'il remplisse notre cœur. Il faut préalablement qu'il ait changé notre cœur. Et puis l'Évangile, nous dit encore l'apôtre, est une bonne nouvelle qui ne souffre pas l'égoïsme. Il ne souffre pas l'égoïsme. Et je crois qu'il y a souvent malédiction sur les chrétiens eux-mêmes et sur les églises qui n'évangélisent pas. Au cours de mes tournées, mais que de problèmes souvent rencontrés dans les églises, comme au niveau des chrétiens eux-mêmes, au plan très personnel. Je ne dis pas que évangéliser règle tous les problèmes. Mais si nous avions à cœur d'évangéliser, combien de nos problèmes n'existeraient plus? Il y a peu de temps à nos gens, un des élèves de l'institut est venu vers moi pour me dire, tu te souviens de moi Alain? J'ai dit, oui, tu es Fernand, tu es François. Parce qu'il y a François et Fernand, deux jumeaux. Oui, tu es François Galvez. Oui, c'est toi qui m'as conduit au Christ, je me souviens. Et tu avais même accepté une drôle d'invitation de la part des loubards que nous étions à l'époque. Je lui ai dit, oui, je me souviens. Tu avais accepté d'être avec nous dans une soirée de danse, encore que tu n'aies pas du tout accepté de danser. Je lui ai dit, je me souviens très bien. Mais pendant que vous dansiez, moi, je priais pour vous. Oui, je priais pour vous. Il m'a dit, je le sais, je l'ai compris après. Ils étaient deux frères, Fernand et François. L'un a fait l'Institut Emmaüs et est maintenant serviteur de Dieu à Paris, 15e, dans cette première église issue de Nation. L'autre est en formation à Nogent. Et celui-là est venu me dire, tu te souviens, on avait comme une envie de te casser la figure, oui. Je me souviens. Et je dois te dire que, de temps à autre, je vous craignais assez, je faisais attention. Il m'a dit, tu te souviens de la fois où tu es venu vers moi pour me dire que je ne devais plus obliger certaines filles à s'asseoir sur mes genoux pendant la réunion. Alors je lui ai dit, oui, je m'en souviens. Il m'a dit, mais tu sais ce qui a changé ma vie chrétienne une fois convertie? Par ton témoignage, ce qui a changé ma vie chrétienne. Je lui ai dit, non, rafraîchis mes souvenirs. Il m'a dit, bien, le fait suivant, j'étais venu vers toi plein de problèmes. Tu t'en souviens? Je n'en sortais pas de mes problèmes. J'avais été voir un psychologue. Ah oui, je me souviens. Et puis toi, tu m'as dit, bon, écoute, François, allez, viens avec moi quelques heures sur la rue. Tu te souviens de cela? Oui, je me souviens. Et on avait commencé de témoigner sur la rue, de distribuer des traités, d'évangéliser. À partir de là, mes problèmes ont disparu. Et voilà pourquoi je suis maintenant à l'Institut public de Nogent, me préparant à un travail pour le Seigneur. Je ne sais pas lequel, mais je fais confiance au Seigneur pour l'avenir. Ah si nous commencions de travailler ainsi, nos propres problèmes disparaîtraient. Nous prendrions, comme nous le disions ce matin, les problèmes des autres. Dans l'amour, nos propres problèmes disparaîtraient. L'apôtre dit que l'évangile lui a été confié. Dans un texte, en 1 Timothée 1:11, mais dans un autre texte, en 1 Thessaloniciens 2:4, il dit que l'évangile nous a été confié. Je vous pose la question, avez-vous pris conscience que l'évangile vous a été confié? Qu'est-ce que vous en faites? C'est le message qui peut sauver votre voisin, votre collègue de travail, votre ami, le passant dans la rue. Qu'est-ce que nous faisons de l'évangile? Il ne souffre pas l'égoïsme. L'apôtre dit, malheur à moi si je ne l'annonce pas cet évangile. Et je pense qu'il y a bien des malheurs dans nos églises parce qu'elles n'annoncent pas l'évangile. Il y a bien des malheurs sur le chrétien parce qu'il n'annonce pas l'évangile. Il ne dit pas son témoignage. L'évangile ne souffre pas l'égoïsme. Est-ce qu'il brûle dans notre cœur ce même évangile? Comment le contenir quand nous savons ce qu'il est, ce qu'il représente, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et nous trouvons le moyen de le garder pour nous-mêmes? C'est presque impensable. Nous nous réunissons au nom de l'Évangile, au nom de Jésus-Christ. Nous aimons à nous réunir et nous aimons partager certaines choses entre nous. Et puis cet Évangile reste toujours entre nous et ceux du dehors. J'en suis arrivé parfois à penser non pas à la carte de décision, même pas à la décision elle-même. Et de plus en plus maintenant, j'appelle à la confession du nom de Christ. Et j'ai même fait une carte qui s'appelle la carte de la confession du nom de Jésus. Sur la base de Romains 10:9-10, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut dire que j'use le plus souvent de cette sorte de carte en Suisse, où tous sont des églisés, comme ils disent là-bas. Tous se disent chrétiens. J'utilise très peu souvent ce genre de carte, parce que dans notre pays catholique, on pourrait penser à autre chose à propos de la confession. Mais la Bible dit que tant que quelqu'un n'a pas confessé le Seigneur des lèvres, il n'a pas encore fait la preuve qu'il est réellement sauvé. Voilà pourquoi je dis aux Suisses, vous vous dites chrétien, mais est-ce que vous parlez du Christ autour de vous? Est-ce que vous le confessez? C'est à ce moment-là qu'ils réfléchissent. Et sur la base de ce texte, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Comment se fait-il qu'il y ait des chrétiens évangéliques nés de nouveau, rachetés par le sang du Christ, qui n'aient pas encore ouvert la bouche pour Christ? On se pose des questions. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli du Christ, on ne peut pas contenir cela. Si notre cœur est plein de cette présence délicieuse du Seigneur, en même temps que rempli de l'Évangile, il faut que ça sorte. Est-ce que ça sort? Est-ce que l'évangile est dit autour de nous? Il y a peut-être ici quelqu'un qui se croit chrétien. Il est sincère, mais il n'a encore jamais ouvert la bouche pour Christ. Vous avez cet après-midi une occasion de l'ouvrir. Pour dire à l'ami qui vous a invité, ici à cette journée de convention, pour dire, je ne sais pas à qui, ou à moi-même au terme de la réunion, comme l'ont fait plusieurs à Valorbe au cours d'une campagne au casino, il y a peu de temps, des Suisses qui sont venus me voir pour me dire à la choix que c'est vrai, on ne confesse pas, on n'a pas confessé le nom du Seigneur. On croit en lui, on vient le faire. Aujourd'hui, m'ont dit ces Suisses, je mets ma confiance en Christ et je confesse le nom du Seigneur et je veux continuer de le confesser. C'est ainsi qu'on est porteur du message, porteur de notre témoignage. L'évangile, Dieu lui-même, ne cherchant pas, ne voulant pas des avocats, Dieu est assez grand tout seul pour se défendre lui-même. L'évangile ayant besoin de témoins, de porteurs, d'esclaves, de messagers. Est-ce que Christ nous trouvera ce soir présents pour se faire décider à devenir porteurs de l'évangile qui ne souffre pas l'égoïsme? Et la Bible dit aussi, c'est le Seigneur qui l'enseigne. Nous devrions être prêts à tout risquer pour l'évangile. Où en sommes-nous à cet égard? Il nous faut être prêts à tout risquer pour l'évangile. Marc 10, 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frère, sœur, mère, père, enfant, etc., une cause pour laquelle il vaut la peine de tout risquer. Un auteur français mort il y a peu de temps a dit ce qui suit. L'homme ne peut pas être heureux tant qu'il n'a pas trouvé une cause pour laquelle il vaut la peine de vivre et de mourir. En voilà une cause, une excellente cause entre toutes, celle qui est la plus excellente, l'évangile. Et l'apôtre avait tout misé sur l'évangile. Est-ce que nous sommes prêts à tout miser sur l'évangile? Est-ce que nous avons pris par excellence pour cause, par excellence, l'évangile? Le plus beau des messages, le plus extraordinaire des messages qui nous vient de Dieu, qui nous vient du Christ. Il est certes vrai que l'évangile peut être reçu ou refusé, mais ceci regarde Dieu. Nous, il importe que nous le disions de tout notre cœur dans la fidélité, dans la foi et avec le cœur comme nous l'avons dit. Et puis l'évangile est aussi la bonne nouvelle de la vérité. Nous détenons la vérité. Comment faire des complexes? La vérité, ça n'est pas Alain Choiquier. La vérité, ça n'est pas une église particulière. La vérité, c'est Christ. Et la vérité, c'est la parole de Christ. La parole de Dieu. Nous détenons cela. L'évangile est appelé l'évangile de la vérité. Colossiens 1, 5. La parole de la vérité, la parole de l'évangile que nous vous avons fait entendre, dit l'apôtre. Donc, avec l'évangile, finit le temps des spéculations, des devinettes sur Dieu. Nous avons un formidable dépôt. Et j'ai comme l'impression que très souvent, nous n'avons pas conscience. Nous ne savons pas que nous sommes les dépositaires d'une affaire extraordinaire. L'évangile, la vérité. Avec lui, je le disais, finit le temps des spéculations, des devinettes, des errements, des incertitudes. Par l'évangile, nous avons des certitudes, parce que la parole de Dieu est vérité, parce que Christ est la vérité. Comment pouvons-nous faire des complexes? Et cette bonne nouvelle est aussi la bonne nouvelle de l'espérance. Plus que jamais. Savez-vous ce qui remplit les salles très souvent? Lors de mes campagnes d'évangélisation, c'est quand nous portons le titre suivant, le thème suivant, « Une génération en mal d'espoir ». Et plus que jamais, la génération connaît un mal d'espoir cruel. Elle est à la recherche d'une espérance qu'elle ne trouve pas. Ici-bas, l'évangile est porteur d'un espoir extraordinaire, d'une espérance fabuleuse. Nous avons ce message, nous avons ce témoignage. Comment le taire? Ça n'est pas pensable. Du temps de la première église, on faisait tout pour réduire les premiers chrétiens au silence. On n'y arrivait pas. Et ces premiers chrétiens de répondre, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On fait tout pour mettre les chrétiens au travail, pour qu'ils rendent témoignage. On n'y arrive pas. Et ils se taisent. Quel dommage, quel message. Comment le taire Ce message, l'évangile étant aussi la bonne nouvelle de la paix. Ce qui remplit aussi mes salles souvent, c'est une génération en mal de paix. Nous avons besoin plus que jamais de paix. La seule paix que nous connaissions de nos jours consiste dans cet équilibre de la terreur entre les deux hégémoniques, vous savez, qui se guettent et risquent de tout faire sauter à un moment ou à un autre. Nous avons le message de la paix du cœur. Nous avons le message du repos intérieur, le message de la tranquillité d'esprit. Nous avons le message de la paix avec Dieu. Nous avons le message de la paix entre les hommes. Est-ce que nous en sommes convaincus ? Pour que nous en arrivions à faire un pacte, il faut que ce message-là soit en nous, bouillonnant, que nous brûlions de son feu, et qu'ensuite nous l'annoncions de toute notre force, surtout dans la force que Dieu donne. C'est le plus beau des messages. C'est aussi le message de la joie. Quand je traite d'une génération en mal de joie, les salles se remplissent de jeunes, parce que les jeunes cherchent la joie de vivre. Or, Jésus a parlé de joie. Il a parlé de joie de vivre. Il en a parlé de façon extraordinaire. Et quand on me dit, est-ce que Jésus a parlé de joie, regardez la tête que font les chrétiens. Quelqu'un un jour m'a dit, tu sais, je n'ai pas envie du Christ parce que quand je regarde ceux qui se disent chrétiens, j'ai plutôt envie de les bouder. On dirait que les chrétiens rentrent du cimetière. Ils ont une telle tête. Alors, j'ai coutume d'ouvrir la Bible et de lire quelques paroles du Seigneur qui a parlé de beaucoup plus que de joie. Il a parlé de plus que de joie. Il a parlé de joie parfaite. Et savez-vous que toutes les fois où Jésus a parlé de joie, il a parlé de joie parfaite. En Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. En Jean 16, 24, il a dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Et en Jean 17, 13, il a dit ce qui suit. J'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Alors pourquoi ces têtes? Ces têtes de chrétiens que nous avons. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais il y a peut-être ici quelqu'un qui a perdu sa joie. Comme David l'avait perdu dans un péché. Il l'avait perdu au cours d'une chute avec Bathsheba. Mais il a dit au psaume 51, dans un cri à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Est-ce que nous vivons la fête du salut tous les jours? Il importe que nos assemblées, nos églises changent de visage. Il importe que nous, chrétiens, nous changions de visage pour avoir le visage rayonnant que donne l'évangile de la joie. C'est l'évangile de la joie. Je n'ai pas le temps de traiter de ce sujet, mais si vous avez envie d'en savoir davantage, vous venez à Grenoble demain soir et puis samedi soir. C'est aussi l'évangile de l'immortalité, la bonne nouvelle de l'immortalité. Savez-vous que nos psychologues affirment aujourd'hui que la source d'angoisse la plus considérable, c'est la mort. Voilà pourquoi j'ai sorti le grand passage sur la base de Luc 16, du riche et de Lazare. Parce que l'année de la sortie de mon livre, plus de 22 ouvrages étaient sortis d'hommes éminents traitant du sujet de la mort. Mais alors sans message particulier. En tout cas, sans message d'espérance. L'évangile est la bonne nouvelle de l'immortalité. Et là, nous sommes dans le mille. Le Christ a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Le chrétien, face à la mort, n'est pas épris d'angoisse. Il n'est pas saisi d'angoisse, plutôt, de tremblement. Il sait où il va. Il a des certitudes. Il fait confiance en Dieu pour sa mort et pour son éternité sur la base du salut du Christ, de la mort du Christ, de la résurrection du Christ, qui est source d'espérance considérable. Nous avons l'évangile de l'immortalité. L'homme aujourd'hui cherche à savoir ce qu'il y a derrière la mort. Au Québec, j'entendais une émission régulière à la radio et qui posait la question suivante. Monsieur, madame, croyez-vous à une existence après la mort? Et en France, nous en sommes là. L'évangile étant l'évangile de la vie. L'évangile de la résurrection, le Christ ayant dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce qu'on peut cacher ce message? Quels sont ceux qui maintenant sont décidés à le cacher, ce message? Levez la main pour voir. Oh, merci Seigneur. aucune main ne s'est levée. Donc tous nous devenons, à partir de ce soir, porteurs du message de l'immortalité. C'est extraordinaire d'annoncer un tel message. Et ce message est aussi, bien sûr, par le fait, la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Nous n'adorons pas un héros mort, le meilleur entre tous. Nous adorons un sauveur vivant. Nous prêchons un Christ mort sur la croix, bien sûr, pour nos péchés, ayant été couvert de notre souillure, ayant laissé couler son sang pour le rachat de notre âme. Mais ce même Christ, 3 jours après, est sorti vainqueur du tombeau. Et voilà ce qui distingue le christianisme des autres religions. Moi, ce qui me brise le cœur, c'est qu'on a fait du christianisme une religion. J'ai comme une envie d'écrire un troisième livre qui va précisément mettre les choses au point et qui va peut-être porter pour titre, soit Dieu, point d'exclamation, 3 points, sans blague. Ou bien encore, le christianisme, religion morte ou relation vivante. Le christianisme n'est pas une religion. Dans le sens où nous l'entendons couramment, qu'est-ce que la religion généralement? Elle est faite de traditions, elle est faite de rites, elle est faite d'éducation. À la limite, elle peut représenter une culture. Il y a une culture chrétienne, mais ça n'est jamais une culture chrétienne qui sauve l'homme. Ça n'est jamais un héritage religieux qui sauve qui que ce soit. Ce qui sauve l'homme, c'est le Christ, et particulièrement le Christ ressuscité. Après sa mort, il est sorti du tombeau. La Bible dit que sans la résurrection du Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Elle ne dit pas sans la mort du Christ. Elle dit sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Parce que c'est la résurrection du Christ qui est comme la colonne vertébrale du christianisme. C'est la résurrection du Christ qui manifeste que le sacrifice du Christ a été véritablement agréé de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons Christ ressuscité. Et nous essayons de mettre les hommes et les femmes en contact avec le Christ. Et quand on me demande très souvent, Alain, qui êtes-vous? Surtout des journalistes ou des animateurs de télévision ou de radio. J'ai coutume de répondre, moi je ne suis qu'un doigt. Un doigt qui pointe toujours quelqu'un, jamais quelque chose, jamais une religion, toujours une personne. Et je cite aussi volontiers le dicton qui court la France et qui dit ce qui suit, « Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. » Et je dis à mes auditoires qu'ils ne sont pas faits d'imbéciles parce que ça n'est pas à Alain Choiquet qu'ils regardent, mais c'est au Christ que le doigt que je suis pointe constamment pour orienter vers lui. La bonne nouvelle du Christ ressuscité. Bouddha n'est pas ressuscité. Mahomet n'est pas ressuscité. C'est toute la différence. Et quand on prêche l'évangile, c'est une personne qu'on prêche. L'évangile étant toujours, en même temps que le christianisme, une personne. L'apôtre ayant dit, je n'ai rien voulu savoir parmi vous aux Corinthiens que Jésus-Christ, une personne. Souvenez-vous de Siméon, lequel a reçu dans les bras, au jour de la présentation du Christ au temple, Siméon, la prière qu'il fit entendre à Dieu, « Tu peux à présent laisser aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus signifie en hébreu « l'éternel et sauveur ». Ce qui sauve, c'est toujours une personne. C'est lui qu'on prêche, dans sa personne et dans son œuvre. On tente de le faire connaître et on demande aux gens qui viennent entendre l'évangile, on leur demande d'ouvrir leur cœur à une personne. On ne prêche pas une religion, pas même la meilleure. On ne prêche pas un rite, une tradition, une éducation, la meilleure entre toutes. On prêche tout le temps une personne. Il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, on peut le prêcher. Et la Bible dit que parce qu'il est ressuscité, il peut se rencontrer. Nous essayons donc de faire que les hommes et les femmes qui écoutent l'évangile rencontrent le Christ. Parce qu'il est vivant, dit la Bible, il peut se vivre. Paul ayant dit, si je vis, ça n'est plus moi. C'est lui en moi. Est-ce qu'il vit en nous ? Cet après-midi. Et puis, la Bible dit encore que parce qu'il est vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, 25. Si vous ne l'aviez pas encore reçu ce soir, le Christ de l'Évangile, venez à lui, il est vivant pour vous sauver. Il est vivant pour vous rencontrer. Je ne prêche pas une religion, nous ne prêchons pas une religion. Nous prêchons une personne. L'Évangile est unique. Savez-vous qu'il n'a pas d'égal sur la terre? Il n'y a pas un message qui, où que ce soit, lui soit égal. L'apôtre de dire même, si on annonce un autre évangile, eh bien, que ceux qui l'annoncent soient anathèmes. L'évangile est unique.
parce qu'il vient du Dieu unique, parce qu'il nous a été transmis par le Fils unique. L'Évangile est véritablement unique, parce qu'il est unique. Dieu veut que non seulement nous le recevions pour notre salut, mais il veut aussi que nous le portions à d'autres. Et ce soir, je vous demande de le recevoir, cet Évangile, si vous ne l'avez pas encore reçu, parce que cet Évangile sauve, et il est le seul à pouvoir sauver, en présentant une personne morte sur la croix pour nos péchés, vivante pour nous rendre justes. Et pour terminer, l'Évangile est un appel. Il est un appel. On me dit souvent, surtout en France, « Ah ben, Joaquin, quand vous appelez, quand vous prêchez, vous insistez un peu trop longtemps, un peu trop souvent plutôt, parce que dans les appels, je ne suis pas long. Vous insistez un peu trop pour que les hommes et les femmes viennent au Christ. Mais il y a urgence. » Et l'Évangile est en lui-même un appel. Jésus ayant dit à ses disciples, pressez les gens, les hommes et les femmes, pressez-les d'entrer. Qu'est-ce que ce genre de chose, sinon une pression à exercer sur les hommes et les femmes pour qu'ils réalisent l'urgence qu'il y a à recevoir Christ pour leur salut? Ma version dit même, contraignez-les d'entrer. Contraignez les hommes et les femmes d'entrer dans leur salut. L'Évangile étant en lui-même un appel, sur la base de 2 Thessaloniciens 2,14, un appel dramatique, en même temps qu'historique. L'apôtre disant, Dieu vous a appelé, par notre Évangile, Dieu vous a appelé à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui, ce soir, cet après-midi, n'avez pas encore reçu l'Évangile, vous êtes appelés à votre salut. Vous êtes appelés à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Évangile que vous entendez en ce moment. Est-ce que vous avez répondu à cet Évangile, à cet appel de Dieu, en même temps historique et dramatique? L'Évangile doit se prêcher dans la puissance du Saint-Esprit, sans chercher à plaire aux hommes, comme dit l'apôtre. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes, mais nous devons être trouvés fidèles dans la prédication de l'Évangile, en demandant à Dieu de le délivrer sous la forme d'un témoignage, sous quelque forme que ce soit, dans la puissance du Saint-Esprit, avec une pleine persuasion. Je ne prétends pas, après ces quelques mots, vous avoir donné une étude exhaustive sur l'Évangile, ce qu'il est dans toutes ses dimensions. Il est trop extraordinaire. Mais l'apôtre dit ce qui suit en 1 Corinthiens 9, 12b, 1 Corinthiens 9, 23. L'apôtre dit, je fais tout, tout, tout pour l'Évangile. Il dit pour commencer, je fais tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile. Avouant ainsi que l'Évangile peut trouver un obstacle chez le chrétien, dans l'Église, chez le prédicateur aussi. Et oui, si vous saviez combien je tremble toutes les fois où j'ai à me lever pour le prêcher cet Évangile. Il est tellement extraordinaire, tellement unique, tellement magnifique, que j'ai peur de lui porter atteinte. Et toutes les fois où je me lève pour le prêcher, je frissonne de tout mon être, demandant à Dieu que je le fasse dans sa main, dans sa grâce, dans sa puissance. Mais il vaut quand même la peine de le dire. Je fais tout. Est-ce que ce soir nous voudrions ainsi parler? Après Christ, bien sûr, qui a donné sa vie pour l'Évangile, qui a laissé couler son sang. Après l'apôtre qui a dit « Je fais tout pour l'Évangile », est-ce que ce soir nous voulons nous faire porteurs de cet Évangile afin de tout faire pour l'Évangile? Ça demande un engagement. Un engagement à prendre cet après-midi, un engagement qui est bien sûr une suite valable, solide, heureuse, bénie dans les jours qui viennent. Dieu veut vous confier l'Évangile maintenant, jeune.